Bonjour, bienvenue à vous dans Babylone, bienvenue chez nos amis les bêtes, avec le rendez-vous des savoirs de l'usage du monde. Qui sont vraiment les animaux? Que pensent-ils de nous? Que pensons-nous d'eux? Quels symboles représentent-ils pour nous? Qu'ils soient domestiques, sauvages ou qu'ils finissent dans nos assiettes, du plus gros au plus microscopique, les animaux sont omniprésents dans nos vies et également dans le studio d'Espace 2 aujourd'hui. Et c'est bien le rapport entre l'animal et l'humain qui nous intéresse aujourd'hui, un rapport fait de crainte, d'amitié, de protection, de sentiments contradictoires, mais en tout cas pas indifférent. Alors d'abord, Joël Proust, philosophe, se demandera dans un instant si les animaux pensent et ce qu'on entend par là. Et puis, en cette semaine de la Saint-Martin, particulièrement active dans le canton du Jura, Martin Heuillet nous rapporte un son et un menu. Et Michel Pastoureau interrogera, lui, notre rapport au cochon, animal symbolique, tantôt méprisé, tantôt dégusté, et d'où pourrait bien venir, figurez-vous, le salut de l'homme qui, physiologiquement, paraît-il, lui ressemble tellement. Babylone, aujourd'hui, avec les sons animaliers originaux de nos mascottes à poils et à plumes du jour, et la réalisation d'une bête de la technique, Fred Chapuis. Sans compter l'assistance et le site internet de Nicole Corpato, David Collin au micro, au croisement des langues et des cultures et des espèces, les portes de Babylone vous sont grandes ouvertes.
Noirci, blanchi, on ne sait qui l'a prise, la frontière où volait la pie.
Et la pie, elle est là, elle est à côté de nous. Alors c'est un perroquet qui est à côté de nous, qui va peut-être dire un mot dans quelques instants et qui est la mascotte, sinon de Babylone, en tout cas du jour sur Espace 2. Bonjour Christian Tchocker.
Bonjour David.
C'est vous le grand dompteur de cette journée spéciale et bestiale sur Espace 2 avec des animaux et des hommes. On va commencer peut-être par rappeler où nous sommes, même si ça a été dit précédemment, et avec qui, c'est-à-dire sur la place du village, dans le hall d'Espace 2, avec un studio déplacé dans les canapés, où nous ont rejoint d'ailleurs aussi Philippe Zibou. Bonjour Philippe.
Bonjour David.
Et surtout un véritable parc animalier qui va se densifier, disons, dans quelques instants et au cours de la journée, avec déjà des chiens qui sont en liberté, surveillés, plus ou moins surveillés. Notre mascotte qui s'appelle déjà Christian.
Alors la mascotte, c'est Balouch, la petite Lakeland Terrier. Et à nos côtés, il y a Choupette. Mais oui, c'est ce petit nom familier. Elle est là, elle nous écoute. Elle est un peu le symbole de cette journée. Nous avons des mots à placer pour faire parler les animaux. Mais eux, ils se prêtent, oui, avec bonhomie à notre radiophonie. Ils disent quoi? Ils restent quoi? Ils disent mots pour l'instant. Peut-être s'éveilleront-ils en langage tout à l'heure.
On attend un peu des... Sinon, on va devoir faire les bruits nous-mêmes. On va devoir japper, on va devoir...
tout bon, à l'heure, on sait faire, ça.
Vous savez faire, hein, Philippe, vous faites de temps en temps comme ça des bruits en arrière-fond, oui. Pendant qu'on discute. Programme de toute la journée, jusqu'à tard ce soir, Christian Tchocker.
Oui, tout à fait. Avec jazz, nous serons au cœur des surnoms que les jazzmen se sont donnés, Lion et autres, et autres surnoms terribles. Mais nous aurons aussi toute une programmation intellectuelle. Je veux dire par là que nous réfléchissons à notre rapport à l'animal. Après tout, nous n'avons que quelques semaines pour penser encore dans cette année à la biodiversité. C'était en 2010 l'année de la biodiversité. Vous voyez, je le mets déjà à l'imparfait parce que la couverture médiatique, les actions gouvernementales ont été pour le moins imparfaites sur ce terrain. Donc, nouveaux contrats avec l'animal, ils sont là pour nous rappeler que peut-être nous devrions changer nos rapports avec eux.
Et déplacer peut-être les clichés qu'on a sur eux, c'est ce qu'on va essayer de faire également dans cette émission. Philippe Zibung, vous avez rencontré la philosophe Joël Proust pour poser une question finalement qu'on ne pose même plus à propos des animaux, tellement ça paraît aller de soi, et sans doute à tort, est-ce que les animaux pensent? Ou plutôt, disons, est-ce qu'ils ont une sorte de pensée qu'on ignore?
Voilà. Bah, Joël Proust se saisit de la question, toute bête finalement, et si souvent posée, les animaux pensent-ils? Alors déjà, les animaux, qu'est-ce que ça veut dire mettre toute l'animalité non humaine dans un grand sac et se demander tous ces animaux, ces milliers d'espèces, pensent-elles? Poser la question ainsi ne dénote pas de beaucoup d'esprit de finesse, on va dire. Et puis aussi dire les animaux, c'est une posture de l'homme dans la nature. Les animaux, prendre des choses comme ça, c'est exprimer ce qu'on appelle de l'esprit de discontinuisme. C'est Joël Proust qui l'appelle comme ça.
Discontinuisme.
Oui, discontinuisme, c'est-à-dire penser que l'animal s'est extrait, que l'animal humain s'est extrait de sa condition animale. Alors Descartes pensait déjà pouvoir le souligner, l'homme s'est libéré de l'animalité, prisonnière de ses passions, prisonnière de ses pulsions. L'homme s'en est libéré en conquérant le langage et la discursivité. Le langage, c'est l'outil, c'est aussi le levier de la pensée rationnelle. Et puis, Penser. Qu'entend-on déjà par penser? Là aussi, la notion est très vague, elle est même fumeuse, et mérite donc qu'on y regarde d'un peu plus près. Alors, les animaux pensent-ils? Question posée bêtement et à dessein en couverture de son livre réédité chez Bayard. L'occasion pour notre invité, l'occasion de commencer par nettoyer la cage.
Joël Proust.
Ben écoutez, c'est une façon de provoquer un petit peu le lecteur.
Bien
parce
sûr.
Que cette notion de pensée, elle est souvent prise de façon grandiloquente à la Heidegger. C'est-à-dire que par pensée, on va exiger des conditions de profondeur, de maîtrise conceptuelle incomparable, etc. Alors qu'en fait, quand on regarde ce que c'est que penser, sur le plan de la cognition, on voit que penser, c'est traiter de l'information et la combiner pour produire un certain type de résultats, de disposition à l'action. C'est ça, penser. Hein, c'est-à-dire faire preuve d'une certaine flexibilité dans ses attitudes grâce au fait qu'on a extrait de l'information de ses interactions antérieures avec l'environnement. Mmh. Donc c'est ainsi que je considère que l'on devrait penser au concept de penser. Mmh. Non pas dans ses aspects grandioses et proprement humains, voire propre à l'élite de l'humanité, mais penser comme le traitement de l'information dont on se sert de façon d'ailleurs souvent implicite pour s'adapter à l'environnement qui est le sien à un moment donné.
Mais si je me contente, Joël Proust, d'une définition aussi minimale, je peux assez rapidement arriver à la conclusion que l'escargot pense, puisque lorsque je pose mon doigt sur sa petite tête, les antennes se rétractent. Donc l'information de l'environnement captée le conduit à s'adapter, à réagir. L'escargot pense-t-il ?
Ce que vous venez d'évoquer, c'est un comportement qui se combine à rien d'autre, qui est un simple réflexe. Donc, ce n'est pas véritablement, d'ailleurs, une représentation au sens plein, même au sens minimal du terme.
Donc, vous comparez cette réaction, vous comparez l'escargot, le gastéropode en général, au thermostat.
Oui, en effet, oui. Un thermostat ne pense pas, évidemment. Un thermostat est construit pour déclencher la chaudière à certaines valeurs qui sont attribuées à un thermomètre, par exemple. Mais le thermostat ne s'adapte pas. Le thermostat nous sert effectivement à adapter la température. Mais en tant qu'outil, en tant que dispositif, le thermostat n'est pas un système de contrôle adaptatif. Mmh. Donc ce qui m'intéresse dans le vivant, c'est le passage de ces dispositifs très rigides, comme par exemple la corne de l'escargot dont vous avez parlé, qu'on trouve aussi dans certains réflexes humains, comme le réflexe rotulien et autres. Comment on passe de ces dispositifs qui sont innés et qui sont inflexibles à des dispositifs qui, eux, sont flexibles et qui sont porteurs d'une information, porteurs d'une disposition à l'action particulièrement adaptée.
Est-ce que vous voulez bien, je le pose, que nous parcourions quelques étapes de ce cheminement qui conduit de l'escargot thermostat vers de la vraie pensée, de celle qui plaît à Descartes et à Heidegger, que vous avez cité tout à l'heure. Les étapes, elles sont nombreuses, elles sont complexes, et à chacune d'elles, il faut redéfinir les choses, il faut redéfinir les concepts, et vous vous y employez très bien dans votre petit livre. Première étape, donc le gastéropode qui n'en est pas vraiment une étape. Ensuite vient la condition minimale qui est, pour qu'on puisse parler de pensée, qui est l'idée qu'il y a une représentation du monde ou ce que vous appelez une proto-représentation du monde, quelque chose qui ressemble à une image du monde. Et quels sont les indices de cette représentation?
Oui, alors avant de m'embarquer dans une réponse à cette question qui est très compliquée, je voudrais peut-être revenir sur la notion d'étape. Parce que, évidemment, quand on parle d'étape, on a l'impression que le règne du vivant s'achemine vers un télos, une finalité, qui serait l'humanité et ses capacités remarquables. Et ça, c'est difficile de se départir de cette impression qu'il y a un ordre dans la nature qui culmine avec l'homme. Mais je crois que c'est une impression qui est vraiment, qu'il faut combattre.
Au fond, c'est une sottise de voir les choses comme ça.
C'est en effet une sorte de sottise que nous avons héritée de notre culture judéo-chrétienne aussi, il faut bien le dire. Les dispositifs qui sont présents dans telle ou telle espèce correspondent à ce qu'on appelle depuis Darwin des adaptations. Et elles répondent donc aux besoins particulier d'une espèce. Donc il faut bien se garder de considérer qu'une forme particulière de représentation est supérieure à une autre. Chaque forme joue pleinement son rôle et permet à l'animal donc de répondre à un certain nombre de besoins. Et chez l'homme d'ailleurs lui-même, toutes les représentations qu'on trouve dans la nature se trouvent rassemblées, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modes d'interaction avec l'environnement par le biais de l'information. Certains modes sont présents chez l'araignée, d'autres sont présents chez la chouette, par exemple, et sont absolument identiques dans les deux cas. Donc il faut être assez prudent avec cette notion d'étape.
Donc le développement, ce qu'on pourrait appeler de la pensée ou de la pré-pensée ou de la proto-pensée, je ne sais pas comment trop l'appeler, est chaque fois adapté au problème spécifique, problème au pluriel, posé à une espèce.
En effet, oui, c'est tout à fait ça. Alors, plutôt que penser, peut-être vaut-il mieux parler de représentation, hein, de proto-représentation. Alors, oui, le cas de la proto-représentation, je l'ai traité dans le livre en prenant le cas, par exemple, de l'araignée. Les araignées sont des animaux qui sont vraiment capables déjà d'extraire des informations qui leur servent à catégoriser le monde. Par exemple, selon le type de vibration qui est ressentie par l'araignée dans sa toile, elle va être capable de prédire le type de proie qu'elle a attrapée. Mmh. Elle va donc être aussi capable de savoir comment attaquer cette proie pour la tuer. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire de voir que l'araignée a des comportements que l'on croyait d'ailleurs jusqu'à une époque récente impossible chez une araignée. Par exemple, l'araignée salticide, qui est une araignée qui est une agresseuse d'autres araignées. Elle est capable de leur sauter dessus, comme l'indique son nom, et de les attaquer par derrière. Donc l'araignée salticide a plusieurs façons, plusieurs stratégies pour attaquer une autre araignée, selon l'espèce de cette autre araignée, selon ses propres dispositions, selon où se trouve le venin de cette araignée. Et elle est capable également de faire des stratégies de détour, y compris des détours qui impliquent une rupture du contact perceptif avec la proie. Donc, est extraordinaire.
Contact perceptif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune...
Elle ne la voit plus.
Il n'y a plus rien.
Voilà. Mm-hmm. Et l'araignée garde quand même en mémoire le fait qu'elle est à la poursuite d'une proie. Alors tout ceci laisse penser, évidemment, qu'elle est capable de ce qu'on appelle réidentifier un objet, ce qui est vraiment une caractéristique très distinctive des vraies représentations par rapport aux proto-représentations. Dans une proto-représentation, l'animal ne fait que répondre à une propriété de l'environnement. Bon, par exemple, le ver de terre, il a des récepteurs de lumière sur sa peau, et donc grâce à cela, il peut se diriger, il est sensible au gradient de lumière, il peut se diriger selon ses besoins par rapport à cela. Il a aussi des récepteurs olfactifs qui le renseignent sur la nourriture qu'il est susceptible de trouver. Là aussi, il y a un gradient qui lui permet de remonter vers la source de l'information olfactive. Mais tout ça ne lui donne qu'une représentation que nous, humains, nous dirions fragmentée du monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas la représentation d'objets indépendants. Il n'a que des propriétés.
Pourquoi n'est-ce néanmoins pas encore de la pensée? Quel est le cahier des charges, l'exigence minimale d'homologation pour qu'on puisse vraiment parler de pensée?
Alors précisément, c'est là ce que les philosophes considèrent comme une véritable représentation, c'est celle qui est susceptible d'être considérée comme vraie ou fausse, ou correcte ou incorrecte. Et pour ça, il faut que un objet se voit attribuer quelque chose. Parce que tant qu'il n'existe pas d'objet représenté, la propriété qui est présente, par exemple, pour le ver de terre, elle va avoir sa puissance de motivation, mais l'animal n'a pas la représentation de la négation de cette propriété. Il n'a jamais qu'un gradient. Donc, ses impressions perceptives ne sont pas susceptibles d'être invalidées.
Ouais. Ouais, il peut se tromper. J'imagine que l'araignée salticide que vous évoquiez tout à l'heure, il peut arriver qu'elle se trompe de stratégie qu'elle se fasse manger elle, parce qu'elle a usé de la mauvaise stratégie. Donc elle pourrait être fausse.
Mais c'est, bien sûr, à nos yeux, c'est nous qui attribuons cette pensée fausse, si vous voulez, cette représentation fausse. Mais quand vous voyez le point de vue de l'animal ne peut pas former cette représentation du fait que sa pensée était incorrecte ou fausse. Parce que précisément, il n'a pas cette représentation du monde comme telle, comme composée d'objets qui ont des propriétés et parfois des propriétés qui sont faussement attribuées. Donc l'idée qu'ont eu les philosophes, et là je me réfère à des travaux comme par exemple ceux de Strawson entre autres, mais je pense que dans Kant on a également ça, pour qu'il y ait un jugement, pour qu'il y ait quelque chose qui ressemble à une pensée vraie ou fausse, il faut qu'il y ait cette dissociation entre d'une part un sujet et d'autre part un prédicat, c'est-à-dire une chose qui est représentée comme ayant telle ou telle propriété.
Mais c'est assez difficile à tester cela, parce que en fait, cette araignée salticide, pour rester avec elle, qui m'a l'air si sympathique, pour rester avec cette araignée salticide, elle arrive quand même à distinguer ce qui est mangeable de ce qui ne l'est pas. Elle ne va pas sauter sur n'importe quel branchage incomestible. Elle va choisir ses proies en fonction d'une qualité qu'elle leur attribue, je ne sais pas, génétiquement ou par expérience, celle d'être comestible pour elle.
En effet. Et nous qui sommes des observateurs de l'araignée, ne pouvons pas nous empêcher de distinguer les objets qu'elle cherche à poursuivre ou à obtenir et de se dire qu'elle est par exemple dans l'erreur sur le fait qu'elle croit qu'il s'agisse de telle espèce alors que c'est de telle autre qu'il s'agit, etc.
Donc en fait, il faut que l'animal soit capable de se dire quelque chose comme « je me suis trompé ».
Exactement.
Donc une sorte de réflexivité.
Alors, ça c'est une question très compliquée, de savoir si on a besoin de former la représentation « j'ai une croyance fausse » pour réaliser son erreur. En fait, je vais vous donner un argument qui tente à penser le contraire. Il s'agit d'un argument tiré de l'analyse du fonctionnement perceptif chez la chouette. C'est quelque chose qui est tout à fait passionnant, qui a été étudié dans le détail par... beaucoup de chercheurs à partir d'un certain Knudsen, et qui nous permettent de comprendre que la correction de l'erreur ne s'accompagne pas nécessairement d'un jugement sur le fait qu'on a formé une croyance fausse. Il y a donc une étape, à mon avis, intermédiaire entre ce jugement plein et entier et réflexif dont vous venez de parler, et puis ce qui se passe en fait dans l'évolution. On a fait l'expérience suivante sur des bébés chouettes, on leur bouche une oreille. Et comme on le sait, dans le cerveau de la chouette, il y a des neurones qu'on appelle plurimodaux parce qu'ils sont à la fois spécialisés dans la réception d'une information visuelle et d'une information auditive. Alors, lorsque les systèmes sensoriels sont en bon état, les informations entre la carte, vous savez que nous avons des cartes spatiales dans chaque modalité perceptive, donc nous avons une carte spatiale visuelle et une carte spatiale auditive. Et donc, lorsque les compétences perceptives sont normales, nous avons un alignement des cartes, c'est-à-dire si j'entends un son sur ma gauche, je vois également sur ma gauche un objet.
Je tourne mon regard à la gauche. Voilà.
Exactement. Eh bien, quand on bouche l'oreille d'une jeune chouette, eh bien, on observe une modification de sa carte auditive qui se recalibre sur la carte visuelle. Donc ça veut dire que même si l'animal n'a pas pris conscience du fait qu'il avait tort de regarder, par exemple, à tel endroit, puisque en fait, le fait que l'une des oreilles soit bouchée modifie sensiblement la capacité d'identifier la source sonore lorsqu'on n'a pas d'autre sens à sa disposition.
En tout cas, de la localiser.
Voilà. Et donc là, la jeune chouette parvient à recalibrer sa carte auditive en dépit de son déficit finalement lié au tampon dans l'oreille. Ce qui veut dire qu'il y a une espèce de recherche de correction par le cerveau qui est équipée de façon innée de cette capacité de recalibration. Et ça, c'est très important parce que qu'est-ce que ça nous enseigne sur la question de l'objet ? Ça veut dire que la chouette, elle a un concept d'objet, c'est-à-dire qu'elle elle peut au moins en avoir, étant donné qu'elle a des neurones dont le rôle est de dire, voilà, à tel endroit du monde extérieur, il y a un seul et même événement qui a des propriétés auditives et des propriétés visuelles.
Donc il y a une sorte de plasticité, d'adaptabilité.
Il y a une plasticité, en effet, mais il y a aussi un câblage plurimodal qui n'existe, à mon avis, pas, mais ça, les recherches ne sont pas encore rentrées, concernant l'araignée. Ni l'araignée, ni le ver de terre n'ont cela. Ils n'ont pas la possibilité de comparer les informations qui viennent de leur audition et de leur vision, et par conséquent, ils ne peuvent pas extraire de l'information reçue des invariants spatiaux. Or, un objet, c'est ça, c'est un invariant spatial. C'est quelque chose qui conserve ses propriétés quand vous le transportez d'un endroit à l'autre, ou du moins ses principales propriétés.
Donc en fait, on a une sorte de transmodalité de la perception comme élément important de la pensée. Est-ce qu'il y en a d'autres de ces éléments indispensables pour qu'on puisse vraiment parler de pensée ? Il y a la représentation, la proto-représentation, la représentation maintenant, cette adaptabilité, recalibrage que vous venez de décrire. Quels sont les d'autres ingrédients pour qu'on puisse vraiment parler de,
de penser.
Ce que l'on découvre de plus en plus, c'est que l'une des caractéristiques de la cognition animale, c'est-à-dire l'usage de représentation chez l'animal, c'est un usage dit modulaire. Ce qu'on entend par là, c'est que l'animal ne fait pas, comme l'homme, des rapports très généraux. Il n'est pas capable de transférer des observations d'un domaine à l'autre. Il est plutôt spécialisé dans ses capacités et dans ses motivations.
Vous dites l'animal, tous les animaux non humains, comme vous les appelez.
Alors, la démodularisation, c'est une question qui est étudiée par les biologistes et par en particulier ceux qui s'occupent de développement d'embryons, etc. Mmh. En fait, la capacité de penser de façon générale vient de la manière dont se développe l'embryon et la manière dont se recouvrent les périodes successives de développement des capacités. Lorsqu'on compare le développement des capacités même chez l'homme et chez le chimpanzé, on voit que chez le chimpanzé, les différentes capacités se développent de façon séquentielle, alors que chez l'homme, elles se développent en parallèle. Bon, et bien sûr, en plus, chez l'homme, il y a cette capacité de langage qui n'est pas présente dans les autres espèces. Et apparemment, c'est cette propriété du développement embryonnaire de se recouvrir dans les différentes capacités qui permet à l'homme ensuite de faire des transferts au cours de son ontogénie d'une capacité à une autre. C'est tout à fait fascinant.
Donc l'ontogénie, c'est le développement de chaque individu, hein,
son parcours de vie. Oui, c'est ça, c'est le développement. En effet, surtout à partir de l'étape de l'embryon jusqu'à l'âge adulte, oui. Une deuxième caractéristique qui justifie de parler, peut-être pas de pensée, puisqu'on l'a vu, c'est un terme relativement vague, mais de capacité représentationnelle, c'est la capacité de combiner les représentations entre elles. Donc ça, c'est très important pour la catégorisation adéquate du monde. Il faut savoir, par exemple, conjuguer le fait que l'on cherche telle propriété, mais en même temps un objet qui est telle autre propriété, ou qui n'est pas telle autre propriété. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc l'animal comme estime, mais pas trop dangereux pour moi, par exemple.
Par exemple. Mmh. Alors, comment se fait cette combinaison? Bon, là-dessus, il y a évidemment plusieurs avis. Certains pensent que les animaux comme l'homme sont pourvus d'une forme de pensée combinatoire innée, qu'ils appellent langage de la pensée. Et donc, c'est cette structure syntaxique qui serait présente chez des animaux non humains qui leur permettrait, comme à nous-mêmes, de former des séquences de concepts complexes qui nous permettraient donc de nous adapter et d'être flexibles dans nos rapports avec l'environnement. Mmh. Il y a d'autres façons d'imaginer cette combinaison, en particulier à travers la valeur émotionnelle de chaque signal accompagné de son image perceptive. Il est possible aussi d'intégrer ainsi des émotions. On sait que l'intégration des émotions est quelque chose d'absolument capital pour le pilotage du comportement, en tout cas chez l'homme. Et nous avons de bonnes raisons de penser que ces réactions émotionnelles, cette capacité d'intégrer à la fois l'attraction et la répulsion, sont tout à fait capitales aussi pour expliquer les comportements adaptés chez le non-humain.
Joël Proust, il y a aussi une autre faculté dont vous parlez beaucoup, et dont on lit beaucoup de choses, la capacité d'apprentissage entre individus d'une même espèce, transgénérationnelle même, cette capacité d'apprentissage qui permet de faire l'économie des rigueurs de la sélection naturelle.
Oui, en effet, ça c'est tout à fait capital. Cette notion d'apprentissage, j'aurais dû l'évoquer avant, elle a été démontrée chez un mollusque qui s'appelle l'aplysie, donc un mollusque élémentaire avec très peu de neurones. D'ailleurs, des gros neurones, c'est pourquoi on a pu l'étudier. Et on a constaté que l'aplysie, quoique ce soit un animal qui est relativement frustre, est néanmoins capable de conditionnement. Il est capable d'être sensibilisé à une source nocive et il est capable aussi, au contraire, d'être conditionné positivement à l'égard d'un stimulus positif. Et de plus, les mécanismes neuronaux qui sont utilisés dans cet apprentissage sont les mêmes que chez l'homme. Donc, c'est-à-dire nous voyons là, c'est des échanges d'ions calcium au niveau des synapses qui expliquent ce conditionnement, enfin qui réalisent ce conditionnement. Donc ça, c'est évidemment un résultat superbe de deux chercheurs, Kandel et Hawkins, qui ont vraiment parlé à propos de l'aplysie d'un alphabet des pensées. Donc vous voyez que la notion de pensée, eux aussi, s'en sont servis. Ils estiment que c'est justement cette adaptation au niveau des synapses qui explique la capacité d'extraire de l'information au sujet de l'environnement.
Le langage a vraiment un effet de levier sur la complexité avec laquelle on peut appréhender le monde, à cause de ces possibilités de combinaisons infinies.
Chez l'homme, c'est effectivement très, ce que vous venez de dire s'applique. C'est-à-dire que chez l'homme, la disposition d'un langage et d'une syntaxe qui permet de créer des séquences jamais entendues avant favorise évidemment la pensée, alors cette fois au sens le plus profond du terme, la possibilité d'enchasser des phrases dans des autres, et en particulier de ce qu'on appelle découpler. C'est-à-dire se dire, bon, moi je pense ça, l'autre il pense autre chose, je peux éventuellement lui mentir pour lui faire penser telle autre chose, etc. Donc tout ça est permis par des représentations verbales. Je pense que le verbal et tout ce qu'il permet de transmettre en matière de concept est indispensable pour cette façon de raisonner sur les états mentaux des autres.
Et il me semble, à vous lire, Joël Proust, que Machiavel se sent très à l'aise dans l'histoire de l'évolution biologique.
Ah oui, tout à fait. Oui, le machiavélisme est présent dès l'origine, dès que les espèces commencent à entrer en compétition, et même à l'intérieur d'une même espèce, quand les animaux disposent d'une capacité de se représenter les choses, évidemment, ils vont en jouer, ou l'espèce va en jouer pour eux, pour leur permettre de supplanter leurs compétiteurs. Donc ça commence avec les leurres, les tromperies perceptives, lorsqu'un papillon s'approprie le marquage empoisonné d'un autre papillon, etc. Tout ça, c'est évidemment lié au fait que les animaux traitent de l'information. Mmh. Donc c'est vrai que dès qu'il y a traitement de l'information, il y a machiavélisme possible et l'évolution, évidemment, ce n'est pas intentionnel, si vous voulez, les animaux se trouvent être sélectionnés en vertu de ce machiavélisme.
Alors ça a l'air de rien, ça a l'air très efficace, mais surtout ça dénote des structures mentales quand même assez complexes, celles de ruser, parce que c'est imaginer, c'est non seulement penser, mais c'est imaginer que l'autre va penser quelque chose et que je vais l'induire à penser autre chose, enfin à le tromper. C'est complexe de tromper, c'est des mécanismes de représentation du monde et des autres individus qui sont subtils.
C'est tout à fait vrai, et c'est même si subtil qu'on n'a pas pour le moment de modèle formel de ce que c'est que la révision de croyances lorsqu'on est en train de mentir. Mais cette forme de mensonge très subtile, c'est une forme de tromperie qui est propre à l'homme. Chez l'animal, on trouve des tromperies qui sont fondées sur des indices comportementaux. C'est-à-dire que l'animal ne se dit pas « je vais modifier les croyances etc. en prenant telle ou telle posture ou donnant telle ou telle impression, mais il sait que s'il fait ça, il va réussir à obtenir ce qu'il souhaite. Donc il y a une association entre un indice comportemental de sa part et la chance de réussir dans son objectif qui fait qu'il va utiliser cette stratégie. Donc on appelle ça du mensonge tactique. Mmh. Mais il n'y a pas de compréhension de l'aspect mental de la chose, c'est-à-dire qu'il ne se représente pas le fait que l'autre va penser que.
Il a simplement observé que c'était une stratégie efficace.
Voilà, il pense que l'autre va faire telle et telle chose.
Parce qu'il en a fait l'expérience.
Par exemple, là dans le bouquin, je raconte les rapports entre les brèmes à monocle, qui sont des poissons de récif, et leurs nettoyeurs, qui sont des labres.
Donc deux espèces interdépendantes.
Deux espèces interdépendantes, et là on a appris beaucoup de choses sur leur rapport, sur la manière dont l'une observe l'autre pour savoir s'il est un bon nettoyeur, et dont le nettoyeur à son tour fait du zèle lorsqu'il est mis en présence de clients nouveaux, et aussi s'abstient de manger du mucus, parce que ça c'est sa nourriture favorite, sur le dos du client si je peux dire, mais il n'est pas là pour manger du mucus, il est là pour manger les parasites. Et donc il y a un compromis lorsqu'il est face à des observateurs qui ne sont pas des clients encore, eh bien, il mangera beaucoup moins de mucus sur la brème dont il est en train de s'occuper que s'il était devant des clients confirmés, si je peux dire. Donc, il y a là quelque chose d'extraordinaire sur ce qu'on arrive à savoir sur la vie sociale de ces animaux et sur leurs relations. On peut difficilement dire maintenant qu'il s'agisse de quelque chose de mystérieux.
Joël Proust, à votre micro, philosophe, hein, Philippe Zibung, à propos des animaux qui pensent à leur manière, et des fois mieux que les hommes.
Oui, qui inventent le marketing, comme on vient de l'entendre à l'instant, hein, avec l'exemple de ces deux poissons, le poisson nettoyeur et son poisson client.
Comme son livre ?
Son livre, c'est « Les animaux pensent-ils ?» et il vient d'être réédité aux éditions Bayard.
Merci Philippe. Vous écoutez Babylone, espace 2, avec une journée spéciale et bestiale. Aujourd'hui, en direct de la place du village, avec toutes nos mascottes.
Pour la chèvre, le béaba, c'est pas bêlé, mais béguété.
Les animaux sous toutes leurs coutures, y compris la couture gastronomique, on a osé ça. Oui, désolé pour les amis des bêtes, mais on mange aussi des animaux, je vous le rappelle, et ça arrive spécialement en ce moment à l'occasion de la Saint-Martin. On ne pouvait pas manquer de parler du cochon. On va l'évoquer de manière symbolique avec Michel Pastoureau dans un instant, mais Martine Heulet, qui est correspondant à Deres Zwei ici à Lausanne, et qui est un habitué d'Espace 2 également, ne pouvait pas manquer de nous en parler. Il est sur place, c'est un inconditionnel de cette fête-là. Et donc, il va nous dire, dans ce petit reportage, quelques mots supplémentaires du cochon et surtout de la cuisine autour du cochon, dans une cuisine, une grande cuisine, avec un spécialiste de ces menus tout à fait temporels autour de la Saint-Martin. Petit reportage.
Gabi Kikré, qu'est-ce que c'est la Saint-Martin ?
Allô ? La Saint-Martin, c'est une fête qui se fêtait traditionnellement à la fin des travaux des champs, donc c'est-à-dire au 11 novembre.
Et pourquoi à ce moment-là ?
Alors justement, les agriculteurs à l'époque avaient terminé leurs travaux, le froid commençait d'arriver, et puis comme Saint-Martin de Tours, donc c'est le saint qu'on fête, il est du 11 novembre, c'est pour ça qu'on fait cette fête à cette saison.
Alors on tue le cochon ?
Alors on tue le cochon, bien sûr, et puis après on utilise tous les abats pour fabriquer la Saint-Martin traditionnelle.
Alors, qu'est-ce qu'on va manger ?
Alors, on va commencer par une gelée de ménage, où dedans, il y aura toutes les extrémités, c'est-à-dire les pieds, la queue, la tête, les oreilles, ainsi que la langue. Ensuite, on va manger le boudin, qui est fait à base de sang, poireaux, oignons et assaisonnement. Ensuite, on va manger la trio. Ensuite, nous allons manger le sorbet à joulot.
C'est le trou normand ?
C'est le trou à joulot. Le trou normand est à base de glace citron. Le trou à joulot à base de glace, soit damascine, soit prune. Arrosé, bien entendu.
Ensuite,
vous avez la possibilité de manger la choucroute garnie, donc avec 4 sortes de viande, pommes de terre et choux. Et ensuite, le rôti accompagné de pâtes. Et pour compléter le tout, le fameux toché de Saint-Martin, qui est le gâteau à la crème salée.
Mais là, si j'ai bien compté, il n'y a que 5 plats.
Il y a 7 plats.
Il y a 7 plats.
Voilà. Ça, c'est la Saint-Martin que nous faisons ici, à l'Auberge de l'Aigle, à Confontée.
Là, la Saint-Martin visitée par un autre Martin, Martine Heulet avec Gabi Kikré, c'était dans le Jura, c'était ce week-end. Vous savez, la Saint-Martin qui continue encore jusqu'au week-end prochain et qui est un moment assez particulier dans le Jura pendant cette période. Alors le cochon, on va continuer d'en parler avec Michel Pastoureau, historien médiéviste, spécialiste de la symbolique des couleurs, mais aussi spécialiste des animaux, surtout les plus réprouvés comme le corbeau, l'ours et évidemment le cochon. Un cochon tabou, mais aussi un cochon qui peut parfois nous sauver la vie. Michel Pastoureau était au micro d'Annick Chouin.
Le cochon fournit des organes qui peuvent être greffés sur l'être humain, soit momentanément, soit définitivement, notamment le foie, le cœur également. Le problème, c'est celui des rejets, bien sûr, qui ne sont pas encore complètement maîtrisés, mais certains médecins et biologistes, pas tous, mais certains ont confiance dans l'avenir et des progrès vont être faits pour maîtriser ces rejets, j'emploie un terme générique. Évidemment, les choses sont un peu plus compliquées. Je pense qu'il y a là un avenir. En tout cas, ce n'est pas le singe qui fournit ses organes à l'être humain. C'est le cochon. Des chercheurs canadiens ont même fait des expériences montrant qu'une femme enceinte qui doit être opérée lourdement peut être, comment dirais-je, assisté par une truie. L'embryon est retiré de l'utérus de la femme, placé dans celui de la truie, le temps d'une opération qui peut durer une demi-journée par exemple, et ensuite on récupère l'embryon qui est remis dans sa mère biologique. Donc la truie peut être mère porteuse, pourrait-on dire, d'un embryon humain pendant quelques heures sans qu'il n'y ait de véritables problèmes.
Ça va provoquer de beaux débats quand même.
Oui, je ne sais pas à quelle trace cela laisse de savoir que l'on a été à l'état...
Vive les psychanalystes
à l'intérieur de...
Qui est ta deuxième mère, une truie.
Voilà, ça ouvre des portes vertigineuses sur le plan biologique, mais aussi sur le plan symbolique, bien sûr.
Alors, comme l'ours, est-ce que le nom du cochon a pénétré dans notre vie quotidienne? Pour l'ours, je rappelle par exemple proche de nous que le prénom ours est très, très en vogue, en Suisse alémanique notamment, et on pense bien sûr à la ville de Saint-Ursanne, mais il y en a bien d'autres. Il y a l'équivalent pour le cochon?
Alors pour le cochon, il faut distinguer le cochon sauvage du cochon domestique. Le cochon sauvage, c'est-à-dire le sanglier, a laissé davantage de traces dans les noms de lieux et les noms de personnes. Dans les pays germaniques, les noms de baptême, les prénoms construits sur une racine Eber, qui est le nom du sanglier en allemand, un des noms du sanglier en allemand, sont relativement courants. Eberhard, par exemple, c'est un nom de baptême qui était peut-être plus fréquent autrefois, mais qui existe encore aujourd'hui. En revanche, le cochon domestique n'a pas laissé beaucoup de traces dans les noms de personnes. Son nom même est devenu un nom ayant un certain nombre de sens figurés qui sont souvent relativement péjoratifs. Traiter quelqu'un de cochon ou de cochonne, ça n'est pas valorisant. Mais c'est assez récent, en fait, cet emploi du nom cochon ou du nom porc dans un sens péjoratif. Pendant des siècles et des siècles, pourrait-on dire, le cochon ne fait pas de cochonnerie au sens sexuel du mot. Dans la symbolique animale, c'est le chien qui est chargé de ce rôle. C'est le chien qui fait des cochonneries lubriques. Et c'est quand le chien commence à se revaloriser à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne, qu'il devient le fidèle compagnon de l'homme que nous connaissons. Il faut le débarrasser de ses aspects négatifs et notamment de cette forte dimension sexuelle impure. Alors on la déverse sur le cochon qui n'y était pour rien et le cochon commence à être symbole de cochonnerie au sens moderne de ce mot. Et aujourd'hui, il y a cette forte dimension sexuelle. Il y a l'idée qui n'est pas très fondée que dans l'acte sexuel, le cochon et la truie semblent prendre un plaisir qu'aucun autre quadrupède ne prend.
Sauf les singes bonobos, peut-être.
Alors, peut-être les singes, oui. Mais il reste encore des traces de l'ancienne sexualité cochonne du chien. Par exemple, aujourd'hui, pardonnez-moi, mais traiter une dame de truie, ça semble moins grave que de la traiter de chienne. Et ça, c'est un héritage des époques anciennes.
Quel est le rapport, Michel Pastoureau, par exemple, entre le cochon et l'argent? Vous avez eu, vous, enfant, une tirelire en forme de cochon?
J'en ai eu plusieurs. J'en ai même eu beaucoup.
Seriez-vous avare ou parcimonieux?
Pas du tout, mais enfant, je m'intéressais déjà aux bibelots et aux jouets en forme de cochon. C'est chez moi l'attirance ancienne et on m'offrait naturellement des tirelires jouets, puis après des tirelires un petit peu plus esthétiques et puis des objets de collection. Ça remonte au XVIIIe siècle, la tirelire en forme de cochon. Les plus anciennes sont écossaises et anglaises. Et alors, on ne sait pas si cela tient à ce que qui possède un cochon n'est jamais pauvre, disent plusieurs proverbes européens. Donc le cochon a à voir avec l'argent et même avec l'enrichissement, puisque un cochon, surtout si c'est une truie, ça va donner naissance à d'autres cochons qui vont se reproduire, etc. Donc il y a l'idée du cochon qui permet de ne pas être pauvre et éventuellement de faire fortune. Mais il y a aussi le nom pig en anglais qui, sous des formes variées, peut être celui d'une certaine argile que l'on trouve dans des carrières britanniques. Et ces premières tirelires sont en terre, elles sont faites en argile. Et alors c'est peut-être simplement le matériau qui a expliqué la forme que l'on a donnée à ces tirelires. En tout cas, à partir des années 1780-1800, les tirelires en forme de cochon débordent sur le continent et traversent tout le 19e et le 20e siècle.
Revenons à cette humanité du cochon. Dans certaines régions, notamment en Suisse, vous dites, on l'appelait monsieur. Ailleurs, on lui a intenté des procès. Procès avec juge et jugement?
Oui, le cochon est un animal vagabond, notamment en ville, donc il occasionne des accidents et parfois même il se montre particulièrement vorace au point de commencer à dévorer un bébé qu'il a renversé ou qu'il a assommé. Et on a au Moyen-Âge l'idée que les animaux, en tout cas certains animaux jugés supérieurs, sont des êtres moraux, responsables de leurs actes, capables de comprendre ce qu'est le bien et le mal. Et donc, parfois, à partir du XIIIe siècle, on les juge, on les conduit au tribunal, on leur donne un avocat, il y a un procès, une mise en scène de ce que l'on pense être la bonne justice. Et les animaux les plus souvent conduits au tribunal, ce sont les cochons, à la fois parce que ce sont eux qui occasionnent le plus d'accidents et d'homicides ou d'infanticides, mais probablement aussi parce que ce sont eux qui sont pensés comme les plus proches de l'être humain. Et donc, on a gardé trace de ces procès faits à des cochons entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Il y a des régions où ces procès sont plus fréquents que d'autres. La Suisse est particulièrement bien placée. Tout le croissant alpin, d'ailleurs, d'une manière générale, est riche en procès faits à des cochons ou à des truies, mais aussi l'est de la France, la Bourgogne, une partie de l'Allemagne. Et alors, parfois, quand on a des dossiers un peu complets, on est sidéré de ce qui s'est passé. C'est le cas, par exemple, à Falaise, en Normandie, à la fin du XIVe siècle, une truie qui avait à moitié dévoré un nouveau-né mal surveillé, est attrapée, elle est jetée en prison, on la nourrit, on paye un garde pour la surveiller dans sa prison, puis elle est jugée, elle a un avocat pour la défendre, il n'a pas dû être très efficace parce que la truie est condamnée à être pendue, puis brûlée, et pour la pendaison, on l'a revêtue d'habits de femme avant de la pendre, et le juge de Falaise, qui organisait l'événement, a demandé deux choses, d'une part que les paysans alentour viennent avec leurs cochons et que ceux-ci assistent à la pendaison de la truie pour que ça leur fasse enseignement. On a l'idée qu'ils vont en retirer une leçon de morale. Et d'autre part, il a demandé à ce que dans l'église de la Sainte Trinité de Falaise, une grande peinture soit faite pour garder mémoire de l'événement, comme il est dit dans les documents. Et cette peinture pouvait se voir jusqu'au début du XIXe siècle, époque à laquelle elle semble avoir disparu. Mais on en a gardé quelques gravures effectuées au XVIIIe siècle.
On voit que ce statut du cochon, du porc, change suivant les siècles, suivant les cultures aussi. Le cochon est dangereux, le cochon est cochon, le cochon est aussi précieux. Il a également parfois une image positive. Et puis on en arrive aux trois petits cochons de la bande dessinée et des dessins animés pour enfants. Cette innocence du cochon, elle intervient quand ?
Elle intervient de bonne heure, comme vous l'avez souligné. Le cochon est ambivalent.
On passe de l'un à l'autre tout le temps.
On passe constamment de l'un à l'autre, du mauvais porc au gentil cochon et inversement. Et du côté du bon porc, du bon cochon, on trouve toujours des liens étroits avec l'enfance et avec les petits-enfants. Et les légendes qui associent le porcelet, le petit cochon ou le jeune enfant sont très anciennes. Probablement parce que, au fond, il n'y a rien qui ressemble plus à un bébé humain qu'un porcelet.
Y
compris la couleur, la forme, les comportements et l'anatomie. Et dans le livre, je rapproche deux radiographies d'un porcelet d'un côté et d'un bébé de l'autre. C'est quasiment la même chose. Donc, sur le plan des contes, des légendes, des mythologies, cela a laissé des traces. Par exemple, dans la légende de Saint-Nicolas, trois jeunes enfants sont faits prisonniers par un méchant boucher qui les conduit dans son saloir, qui les découpe et qui va les faire passer pour de la viande de cochon et les servir à ses clients. Mais le grand Saint-Nicolas arrive, fait un miracle, punit le boucher et redonne vie aux jeunes enfants qui retrouvent leur forme humaine. Donc il y a un problème de métamorphose entre le jeune cochon et le jeune enfant. Ça marche dans les deux sens et ça n'est pas le seul cas, même si c'est un des plus célèbres. Il y a plus ancien encore, dans l'Odyssée par exemple, Ulysse Ulysse arrive au pays de la magicienne Circé au cours de son périple de retour, et celle-ci transforme ses compagnons en cochons pendant quelque temps. Cette métamorphose d'homme changé en porc, c'est quelque chose qui revient constamment dans les mythologies anciennes, dans les contes, dans les légendes et même dans les poésies contemporaines.
Oui, ou les romans. Alors, on ne pense pas les à Kafka, mais Marie d'Arieusec, qu'on a beaucoup lu, Truisme, hein, où une jeune femme se transforme en truie, mais elle fait une bonne affaire, là, non ?
Oui, le roman est fascinant parce que la transformation de cette jeune femme en truie se fait progressivement et c'est très habilement décrit, cette transformation progressive. Et une fois qu'elle est devenue truie, au fond, son sort semble meilleur que lorsqu'elle n'était qu'une jeune femme. Il y a là une réflexion sur la condition humaine et la condition animale qui est poussée assez loin. Et ce roman, donc, après bien d'autres, souligne comment la métamorphose de l'homme ou de la femme en cochon est possible et comment on peut aussi retrouver dans l'autre sens son apparence humaine.
Porc aimé, porc tabou, porc lui-même tabou, sa chair tabou, on pense bien sûr aux juifs et aux musulmans, mais on apprend dans votre livre, Michel Pastoureau, qu'il y en a bien d'autres. Vous parlez des Phéniciens, des Cananéens, des Crétois et plus tard des Éthiopiens et Indiens. On se dit que la question de la religion n'est jamais très loin quand il est question du cochon.
Oui, pas seulement du cochon, parce que dans toutes les religions, les animaux jouent un rôle considérable, surtout dans les religions anciennes. C'est peut-être le christianisme, d'ailleurs, qui leur accorde la part la plus faible. Mais par le biais des sacrifices, par le biais des rituels de toutes sortes, dans les religions anciennes, l'animal est très présent. Et autour du bassin méditerranéen, le cochon tient une place considérable, soit qu'il soit vénéré, offert en sacrifice aux dieux, comme chez les Grecs par exemple, ou chez les Celtes, ou bien au contraire complètement taboué et rejeté, comme à un moment de leur histoire par les Égyptiens, puis par un certain nombre de peuples du Proche-Orient, notamment les tribus juives et les tribus arabes. Dans leurs époques les plus anciennes, on a déjà des traces de ce rejet du cochon. La bibliographie est énorme pour essayer d'expliquer pourquoi, dans la Bible par exemple, le cochon est déclaré impur, pourquoi il est rejeté d'abord par les Hébreux, puis par les Juifs, et puis plus tard par le Coran et par les musulmans. Aujourd'hui, on a abandonné les explications d'ordre climatique et hygiénique qui ont eu cours pendant très longtemps. L'idée était que dans les pays chauds, la viande de porc se conserve mal et entraîne, si elle est consommée, des maladies, des parasites, etc. Aujourd'hui, on a abandonné cette idée parce qu'on a constaté que dans les mêmes régions chaudes, il y a des peuples qui mangent du porc et d'autres qui n'en mangent pas, des peuples qui sont voisins, des peuples qui se mêlent les uns avec les autres. Donc ça n'est pas la bonne explication. Donc on a avancé d'autres hypothèses, toutes intéressantes, des explications historiques. Le porc aurait été l'animal totem du peuple de Canaan et quand les Hébreux ont pris leur place au pays de Canaan, et naturellement ils ont déclaré tabou l'animal totem du peuple qu'ils ont remplacé. Ou bien des explications plus taxinomiques liées au savoir zoologique. On a constaté que dans les sociétés anciennes sont souvent tabous les animaux que l'on n'arrive pas à classer par rapport au savoir de ces époques-là. Et le cas du porc est typique à cet égard. La Bible dit expressément, le cochon a le pied qui est celui des ruminants et pourtant il ne rumine pas. Donc il est hors classification, hors catégorie. Ça peut suffire pour en faire un exclu, un réprouvé et un animal taboué. Cela dit, moi, je suis persuadé qu'il y a une autre explication et que le cousinage biologique entre l'homme et le porc est tellement grand qu'il y a une espèce d'attrait-rejet comme cela et que c'est là qu'il faut chercher les explications sur les tabous qui entourent l'animal et le fait que dans certaines cultures, non seulement on ne mange pas sa viande, mais on ne doit pas le toucher, on ne doit même pas le nommer.
Michel Pastoureau au micro d'Annick Chouin à propos de nos amis les cochons entre attrait et rejet. Un entretien en nouvelle diffusion à l'occasion de la journée bestiale d'Espace 2 et de la Saint-Martin qui, dans le canton du Jura de Delémont à Port-en-Truy, célèbre le cochon sous toutes ses formes. Pour en savoir plus, sachez que Michel Pastoureau est l'auteur d'un livre sur le cochon paru aux éditions de La Découverte et intitulé « Le cochon, histoire d'un cousin mal aimé ». Les cochons, oui, cousin mal aimé, mais parfois aussi héros héros d'aventure. Avec tout à l'heure un premier épisode dans les matinales, voici le second, le retour de Peggy et de ses amis cochons du Muppet Show.
Et maintenant, les cochons dans l'espace. Avec l'indomptable capitaine Jean Bondiorque, la perverse et sensuelle Piggy, et l'énigmatique docteur latino-sinoslave Enrico Chonor. Quand nous avions quitté le transport chéri, il était dans un piteux état. Les cochons dans l'espace.
Long, trop long, tout cet océan à franchir pour le goéland. C'est à pleurer.
Mais pas vraiment de raison de pleurer ici sur la place du village d'Espace 2 en direct. Ah, vous l'avez entendu avec nos amis les bêtes et un perroquet qui est mon voisin qui a tendance maintenant à se réveiller. Vous avez entendu son petit cri, c'est un bleu je crois du Gabon, voilà, bonjour. Il parle pas quand on veut, mais ça va venir. Gris du Gabon et pas bleu, c'est vrai qu'il est gris et elle est très sage. Elle s'appelle Choupette et elle est juste à côté. Voilà, elle c'est notre mascotte du jour. Il y a aussi des chiens. Il y aura tout à l'heure d'autres animaux qui vont nous rejoindre pour Dardar. Il y a toute une basse-cour. En tout cas, un poney, il y a de la paille, des barrières. Bref, ça vaut le coup de passer dans nos studios en ce moment. C'est bien animé. Tout à l'heure, on voulait vous passer l'extrait d'une musique après l'entretien avec Joël Proust, la philosophe. Et ben, le voici avec un petit peu de décalage à propos de ces animaux qui pensent. Souvenez-vous, un film où les animaux pensent et où le monde est un peu à l'envers, la planète des singes. Voilà, un petit extrait de La Planète des Singes, d'après la nouvelle version de La Planète des Singes et la musique de Danny Elfman. Vous écoutez Espace 2, c'est la journée bestiale. Merci à tous ceux qui ont participé à ce Babylone spécial animaux. Fred Chapuis en réalisation, Martin Heulet, correspondant spécial dans le Jura à l'occasion de la Saint-Martin, Philippe Zibung et Annick Chouin. Et puis merci à Nicole Corpato qui nous a rejoint, qui est en train de donner à manger au perroquet, à Choupette, qui n'a pas dit un mot depuis, mais qui va certainement être très bavard pour la suite de nos émissions toute la journée, vous le savez, sur cette opération spéciale. Demain, table ronde dans Babylone, à propos d'un sujet un peu plus grave, qui est la maltraitance des enfants, on aura nos invités, notamment Monsieur Ansermet, grand psychanalyste et surtout spécialiste de la maltraitance des enfants, également d'autres intervenants. Merci à tous. Babylone, une production
avec le temps.
Et les animaux, et une coproduction de Nicole Duparc et David Collin. Il est temps de vous informer. Il est déjà 10h. Bonne journée.